en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, notre invité dans cette nouvelle émission en habit vert est une référence mondiale dans le domaine des matériaux. Il est très exactement physico-chimiste, spécialiste des métaux et des alliages. À la fois chercheur et enseignant, il reste soucieux des applications technologiques envisageables dans l'élaboration de nouveaux alliages. Car comme nous avons pu le voir dans une précédente émission consacrée à la métallurgie en compagnie d'Yves Quéré et d'André Pinault, la science des métaux et des alliages est beaucoup moins poussiéreuse qu'on ne le pense, qu'il s'agisse des téléphones portables, des avions ou encore des centrales nucléaires. Les recherches sur ces matériaux nécessaires à leur élaboration sont très vives. Et c'est certainement la raison pour laquelle notre invité se décrit lui-même comme un hyperactif bourreau de travail, parce que tout reste à envisager dans ce domaine. Yves Bréchet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous êtes membre de l'Académie des sciences depuis 2010 dans la section physique, professeur de sciences des matériaux à l'Institut Polytechnique de Grenoble, qu'on appelle l'INP, professeur à l'Institut universitaire de France et professeur associé à la McMaster University au Canada. Vous êtes également consultant scientifique pour plusieurs grands groupes faisant appel à la métallurgie, ArcelorMittal, le CEA, donc Commissariat à l'énergie atomique, EDF, et l'ONERA, Centre français de laboratoire spatial. À votre actif, vous avez pas moins de 500 publications, plus d'une quinzaine de prix scientifiques, dont dernièrement, en 2010-2011, le prix Humboldt de l'Académie des sciences et la médaille d'argent du CNRS. Et vous êtes un jeune chercheur. Alors, première question, qui vous a transmis cette boulimie de la science et de ses applications, Yves Bréchet ?
Alors, on peut remonter assez loin. On peut remonter déjà au niveau des instituteurs. J'ai eu d'excellents instituteurs qui me donnaient envie de comprendre. Et puis j'ai eu un professeur en classe préparatoire en physique, qui était Jean-Pierre Sarment, qui a été un enseignant absolument extraordinaire et qui me donnait envie de faire de la physique. Puis après, quand je suis rentré à l'école polytechnique, j'ai eu un professeur de sciences des matériaux, Yves Quéré, qui m'a passé le virus de la métallurgie. Donc c'est par une suite de rencontres comme ça que je me suis orienté vers le domaine de la science des matériaux en général et de la métallurgie en particulier. Puis après, il y a eu d'autres rencontres qui ont plus ou moins orienté les domaines auxquels je me suis intéressé. Donc Pierre Guyot pour les alliages aéronautiques, Michael Ashby pour les problèmes de conception de matériaux, David Embury pour les problèmes particuliers de mécanique de la rupture, Gary Purdy pour les problèmes de transformation de phase. Enfin, c'était une histoire de rencontres. Ma carrière scientifique est une histoire de rencontres, en fait.
Vous avez parlé de Michael Ashby, on va y revenir dans quelques instants au cours de vos travaux, les travaux que vous avez menés sur des matériaux. Vous m'avez dit en préparant cette émission, j'ai pris ma première décision à 23 ans. Alors, la métallurgie, c'est quand même l'alliage de la physique, de la chimie, de la mécanique. Est-ce que justement, vous avez choisi de ne pas choisir entre ces trois disciplines ?
C'est exactement ça. En fait, j'étais passionné par les sciences en général et par les sciences de l'ingénieur en particulier. Et j'aimais beaucoup à l'école la physique, la mécanique, la chimie. La métallurgie étant la grand-mère des sciences des matériaux, étant la source de cette discipline-là, m'apparaissait comme tout à fait naturel pour bénéficier au mieux des formations entre ces différentes disciplines que j'avais pu recevoir. Donc j'ai choisi de ne pas choisir.
Vous entrez donc à l'école polytechnique, l'IX comme on l'appelle, et vous faites une thèse sur la fatigue des alliages aluminium-lithium, avec toujours ce souci de faire une recherche qui puisse être appliquée, qui puisse intéresser les ingénieurs. C'est aussi ce qui caractérise vos travaux, votre manière de fonctionner ?
Tout à fait, j'aime bien comprendre pour faire. C'est presque une définition des sciences de l'ingénieur. Et je dirais qu'à l'époque, quand j'ai choisi de faire une thèse sur les alliages aéronautiques, il n'était pas du tout évident pour moi que je continuerais ma carrière dans le domaine de la recherche publique. Ce qui m'intéressait, c'était une recherche de compréhension en vue d'application. Là, c'était les alliages aéronautiques, mais ça aurait pu être d'autres types d'applications. Mais ce qui m'intéressait, et ce qui m'a toujours intéressé, et ce qui continue à m'intéresser, c'est cette relation entre le comprendre et le faire. Je suis fondamentalement ingénieur dans l'âme et scientifique dans l'âme. Et encore une fois, j'ai refusé de choisir. J'aime bien les deux.
Vous parlez d'une recherche de compréhension, justement, après l'IX. Vous faites deux DEA. Le premier, justement, en histoire des sciences, sur l'histoire des idées, et le second, donc, sur la physique de la matière. Pourquoi avoir fait ce DEA sur l'histoire des sciences ?
C'est par curiosité. En fait, ce qui se passait, je suivais à l'IX un enseignement en histoire des sciences qui était donné à l'époque par M. Coubet, Et puis, je m'intéressais vraiment beaucoup à ces disciplines. Je continue à m'y intéresser, d'ailleurs. Mais M. Coubé m'a dit, est-ce que vous ne voudriez pas faire une expérience de recherche dans cette chose-là? Et je dis, après tout, pourquoi pas? Et donc, je me suis inscrit à l'école des hautes études en sciences sociales pour faire un DEA en histoire des sciences. C'était très, très souple. Essentiellement, on ne suivait pas de cours, on avait juste à faire un mémoire. Et moi, j'ai fait un mémoire sur une idée morte. J'ai fait un mémoire sur la disparition de la géométrie projective à la fin du XVIIe siècle. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir comment une idée pouvait naître, grandir, et puis d'un seul coup disparaître, alors qu'elle n'était absolument pas persécutée par l'institution, puisque le représentant était un célèbre académicien qui s'appelait Monsieur de La Hire. Mais l'idée a disparu, puis est réapparue un siècle et demi après. Donc ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'histoire de la vie d'une idée. Donc rien à voir avec la métallurgie.
Rien à voir avec la métallurgie. Justement, on revient à la métallurgie, puisque vous partez une année au Canada en post-doc. Et cette fois-ci, vous faites la rencontre de Michael Ashby pour justement travailler sur la comparaison des matériaux. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus?
Alors c'est un peu plus tard que j'ai rencontré Michael Ashby. Enfin, je l'ai rencontré une première fois au Canada, mais après je l'ai rencontré de nombreuses fois en Europe. Et j'ai trouvé avec Michael Ashby quelqu'un en qui je me sentais en sympathie intellectuelle, en ce sens que c'est quelqu'un qui est profondément, viscéralement comparatiste. Et je me sentais vraiment en pays de connaissance, c'est-à-dire l'avoir envie de comparer les matériaux entre eux, de comparer les domaines d'application, de comparer les mécanismes, de voir qu'est-ce que j'apprends sur un matériau en étudiant les autres. C'est encore peut-être cette propension à ne pas choisir. J'ai quand même choisi de travailler sur les métaux, mais à peu près tous les métaux et alliages m'intéressaient. Après, je me suis intéressé quand même aussi aux composites à base polymère. Donc, cet état d'esprit consistant d'une part à comparer, et d'autre part, à essayer de simplifier des problèmes compliqués pour essayer au maximum de les comprendre avec des outils simples, d'essayer d'avoir les grandes tendances, les ordres de grandeur. C'est quelque chose que j'ai retrouvé chez Mike Ashby, mais c'est aussi quelque chose qu'on trouve dans l'école de métallurgie française. Le prince de ce domaine, c'est Jacques Friedel, qui est un membre de cette corporation et qui a poussé à l'extrême ce talent de simplifier les choses, de prendre des problèmes compliqués et de les rendre clairs, limpides.
Justement, vous parlez de Jacques Friedel. Toujours en préparant cette émission, vous m'aviez dit que, en discutant avec Jacques Friedel pendant 10 minutes, vous avez appris des idées pendant 6 mois.
Oui, c'est à peu près ça. C'est le ratio habituel. Et il a une capacité d'écoute et d'aller au cœur du problème qui est tout à fait fascinante. Enfin, c'est un exemple, je dirais.
Jacques Friedel et Gérard Dautray sont des personnes, justement, qui
Robert
vous apprennent Dautray, à penser.
Oui. Tout à fait, Dautray. Tout à fait. Ce sont des gens qui m'aident à penser et qui m'aident à aller autant que faire se peut, parce qu'évidemment, on est des petits-enfants à côté de ces gens-là, aller autant que faire se peut au cœur du problème. Essayer d'éliminer les scories, qui sont des détails sans importance, pour essayer d'aller au cœur du problème. Que ça soit un problème de science ou que ça soit un problème d'ingénierie.
On va venir quand même à vos travaux. Après votre année de post-doc, vous revenez en France. Cette fois-ci, vous vous installez à Grenoble, hein, à l'Institut National Polytechnique de Grenoble, INP. Vous êtes à la fois donc chercheur et enseignant, on l'a bien compris. Il n'y a pas moins de 70 thésards qui sont passés entre vos mains, dont l'un a créé son entreprise. Est-ce que vous aussi, vous auriez eu l'envie de créer votre entreprise, puisque vous êtes toujours à l'interface entre recherche fondamentale et appliquée?
Pas du tout. Ça, c'est quelque chose qui m'a jamais tenté et que j'ai jamais eu envie de faire. Et je crois que j'aurais été très mauvais à ça. Parce qu'il y a tout un tas d'autres aspects qu'il faut gérer, qui ne sont pas simplement des aspects techniques, qui peuvent être des aspects humains, des aspects d'organisation que j'ai absolument pas envie de traiter. C'est d'ailleurs exactement le même raisonnement qui a fait que je me suis toujours tenu à distance respectueuse de toute espèce de responsabilité d'organisation. Mais je suis très très content qu'il l'ait fait et je l'ai aidé autant que j'ai pu le faire à créer son entreprise. Mais c'est vraiment pas quelque chose que j'avais envie de faire.
Toujours dans cette interaction entre recherche fondamentale et appliquée, est-ce que vous souhaitez, par exemple, développer des brevets? J'ai vu que vous en aviez déjà mis 2 sur pied. Est-ce que, à terme, vous souhaitez en mettre encore d'autres sur pied?
Ah non, pas du tout. Là, de ce côté-là, je suis pas du tout dans le sens du vent. Je me suis retrouvé auteur de brevets. Vous savez, ça dépend très fortement du domaine dans lequel on travaille. Les 2 brevets dont je me trouve co-auteur sont 2 brevets qui ont été pris suite à 6 mois de recherche. Alors qu'en 20 ans de recherche en métallurgie, je n'ai pas pris un seul brevet. C'était 6 mois de recherche sur des problèmes de capteurs en microélectronique. Donc, mais pour moi, ce n'est pas une fin en soi. Enfin, pour moi, le but du jeu, c'est de comprendre et de faire savoir ce qu'on a compris, de le partager et d'aider les autres à aller plus loin. Et ça, c'est fondamentalement pas ce qu'on fait quand on prend un brevet. Donc ça, non.
On arrive à vos travaux. Notamment, vous travaillez sur la transformation de phase et la genèse des microstructures. Vous vous intéressez notamment au biomimétisme. Alors, à moi, un peu barbare, mais on comprend bien. L'idée, c'est peut-être de regarder ce qui se passe dans la nature pour pouvoir éventuellement le reproduire sur les matériaux.
Alors, c'est un des aspects. Je dirais que le cœur de mon travail est de comprendre les relations entre ce qu'on fait vivre aux métaux et alliages et les microstructures qui en résultent, et ensuite la relation entre les microstructures qu'on a fabriquées et les propriétés qu'ils vont avoir, sachant qu'on fabrique un alliage pour des propriétés. Donc le métallurgiste est peut-être la seule personne qui étudie ce qu'il ne vend pas. Enfin, la microstructure est un intermédiaire qui nous permet de comprendre. Et alors après, c'est encore cette démarche comparatiste qui m'a conduit à regarder les matériaux naturels, en ce sens que l'ingénieur a à sa disposition une infinité de matériaux, il peut faire à peu près toutes les gammes de température, la table de Mendeleïev lui est ouverte, enfin bon, il y a énormément de variétés là-dessus, alors que la nature fait des matériaux extrêmement variés, comme l'os, comme les tendons, comme les coquilles, mais avec un nombre limité de matières, parce qu'essentiellement, elle est obligée de travailler avec des polymères, ou avec des solides ioniques, ou avec des solides covalents, enfin avec des choses qui doivent pouvoir se passer en dessous de 40 degrés. Par contre, la nature utilise des astuces qui sont l'architecture des matériaux et l'architecture à tout un ensemble d'échelles. Et en fait, la raison qui m'a amené vers le biomimétisme, c'est d'une part, évidemment, cette boulimie de vouloir comprendre les matériaux où qu'ils soient, mais c'est aussi cette idée de se dire, si j'étais capable d'associer la variété des matériaux constitutifs qu'utilise l'ingénieur avec la variété des architectures qu'utilise la nature, on pourrait imaginer des matériaux beaucoup plus performants. Alors maintenant, ça c'est un peu un rêve, c'est une ligne de conduite, c'est une manière d'orienter des travaux, sachant qu'il y a la question de savoir comment on le fait en vrai. Alors la première étape du point de vue du métallurgiste, c'est de générer des microstructures, d'essayer de les générer à plusieurs échelles, d'essayer de créer des architectures, de regarder des matériaux poreux, de regarder des laines, de regarder des mousses, et de créer des microstructures à l'intérieur de ces matériaux-là. Donc il y a tout un ensemble, il y a toute une démarche qui consiste à se dire je vais essayer de jouer sur tous les matériaux et toutes les échelles pour essayer de faire ce que j'appellerais boucher les trous dans l'espace des matériaux, fabriquer des matériaux qui n'existent pas ou qui correspondent à des propriétés qui sont intrinsèquement contradictoires.
Et dont l'objectif serait d'obtenir une légèreté encore accrue, une conductivité, une résistance plus importante?
Par exemple, ça peut être d'essayer d'obtenir des matériaux à très haute conductivité électrique et à très haute résistance mécanique, ce qui est assez antinomique, d'essayer d'alléger encore les structures, de faire des matériaux qui sont à très haute limite d'élasticité, c'est-à-dire à très haute contrainte supportée sans se déformer de manière irréversible, mais qui serait aussi capable d'absorber beaucoup d'énergie au cours d'un choc ou d'être déformable. Et en gros, c'est mon esprit de contradiction. Quand je vois deux propriétés antinomiques, je me demande comment est-ce qu'on peut les rassembler. Donc c'est un peu les idées qu'il y a là-dedans. C'est exactement ce que fait le coquillage avec la coquille d'huître. La coquille d'huître est à la fois un matériau extrêmement dur et très tenace, ce qui est complètement inhabituel. Donc ce qui m'intéresse, c'est de savoir, du côté des matériaux artificiels, est-ce que je peux m'inspirer de ces architectures? Est-ce que je peux trouver des procédés pour réaliser ça? Est-ce que je peux fabriquer des matériaux sur mesure, d'une certaine façon? Donc il y a, pour évidemment, là on est encore dans la logique du comprendre pour faire, parce qu'il faut comprendre comment ça marche dans les matériaux naturels, pour pouvoir le faire avec des matériaux artificiels. Mais là, je vous dirais, c'est une ligne de conduite. C'est un programme qui est tellement vaste que ça m'amènera largement à 3 fois après ma retraite.
Vous avez un confrère, collègue, qui s'appelle Gérard Ferret, qui fonctionne un peu sur le même système que vous, comprendre pour faire, et qui a mis sur pied justement des milles, ça s'appelle milles, et qui sont donc des matériaux qui se déforment. Est-ce que vous vous intéressez aussi à ces travaux?
Alors, je m'intéresse beaucoup à ces travaux, mais disons plus en observateur admiratif, en ce sens que lui, il part de l'atome. Il parle de l'atome et de la molécule comme le font tous les grands chimistes. Ils construisent la matière à partir de la brique élémentaire. Moi, finalement, ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est de partir des échelles intermédiaires. Non pas de l'échelle macroscopique, non pas de l'échelle atomique, mais de ces échelles intermédiaires qui sont précisément celles qui résultent des transformations de phase dans les métaux et alliages. Donc on va se retrouver avec des choses qui commencent au niveau de quelques nanomètres et qui vont aller jusqu'au niveau de quelques microns, quelques dizaines de microns. Puis après, les échelles supérieures au niveau du millimètre. Donc, je dirais que je suis moins un homme de l'atome. Je suis plus un homme du mésoscopique.
Un autre point sur lequel vous travaillez, c'est le hollow design. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Qu'est-ce que le hollow design?
Alloy design, c'est la partie de la science métallurgique qui consiste à essayer de concevoir des alliages pour des combinaisons de propriétés données.
Alors, parce qu'il reste beaucoup de choses encore à élaborer, j'imagine que les alliages sont infinis.
On a exploré un dixième de l'espace. Par exemple, on peut essayer de faire un alliage sur mesure, non pas pour ses propriétés, mais par exemple pour sa capacité à être assemblé. Alors on voit que ça devient presque un problème d'ingénieur, c'est de se dire je vais essayer de fabriquer un alliage pour que je sois capable de le souder dans telle et telle circonstance, avec tel et tel procédé. Alors évidemment, quand je le dis comme ça, on a l'impression que c'est dans l'atelier de mécanique que je suis en train de faire ça avec le chalumeau. C'est pas tout à fait ça, d'abord je serais bien incapable de souder deux alliages ensemble, mais Par contre, l'idée, c'est de se dire tout ce que j'ai appris en métallurgie fondamentale, en relation entre les procédés et les microstructures, relation entre les microstructures et les propriétés, comment est-ce que je peux intégrer toutes ces briques-là pour construire des outils qui me permettent d'optimiser, par exemple, l'assemblage des matériaux, par exemple, les traitements thermiques qu'on va leur faire pour avoir des propriétés données. Donc encore une fois, là, c'est partir d'un problème concret, voir quelle science fondamentale est nécessaire pour ce problème concret, essayer de développer cette science fondamentale ou de l'importer ou de la traduire et de réintégrer ça pour avoir une vision d'ensemble du problème.
Est-ce que vous avez des exemples à nous donner, une application justement d'un nouveau traitement à faire subir à un matériau ?
Je peux vous donner deux exemples. Un exemple, je pourrais vous en donner d'autres. Prenons un exemple de procédé. C'est des travaux que j'ai fait en liaison avec l'ONERA, avec des collègues belges, sur le problème du contrôle des propriétés dans des soudures d'alliage léger que l'on obtient par un procédé un peu barbare qui s'appelle le soudage par friction-malaxage. On fait passer un pion qui tourne entre deux plaques et on prend de la matière d'un côté, on la met de l'autre côté. Ça, évidemment, ça chauffe, ça déforme. Et le matériau qu'on va obtenir comme ça, il est soudé. C'est deux plaques soudées qu'on a soudées sans jamais les faire fondre, ce qui est un gros avantage pour les alliages légers. Mais évidemment, les propriétés mécaniques locales de ces plaques-là ne sont pas les mêmes que les propriétés de ces plaques avant la soudure. Donc en gros, il faut comprendre qu'est-ce qui est arrivé à la microstructure au cours de ce procédé. Et après, en remontant l'histoire, de se dire, eh bien, cette microstructure qu'on a obtenue, comment est-ce qu'elle est liée à la vitesse à laquelle je fais avancer les pions, à la température, à l'épaisseur des plaques, etc. Donc là, pour faire ça, il fallait faire de la métallurgie physique, de la métallurgie mécanique, de la plasticité, de la mécanique de la rupture, de la thermique, des calculs d'éléments finis et in fine. Enfin, donc là, c'est un type de ce que j'appelle des études intégrées. Maintenant, vous avez d'autres études qui sont beaucoup plus en amont de tout ça. Quand on fait une transformation de phase dans des aciers, Dieu sait que les aciers, s'il y a vraiment une partie de la métallurgie qui, dans l'image du grand public, sent la poussière, c'est les aciers. Quand vous regardez la science qui reste à faire sur ces domaines-là, sur des questions très, très fondamentales, de savoir à quelle vitesse se transforme une phase dans une autre phase, c'est des questions qui soulèvent des points extrêmement précis de thermodynamique, de transport. Et là, essentiellement, on a été obligé de développer des méthodes de caractérisation, des méthodes de traitement, des méthodes d'analyse, des méthodes de modélisation qui essayent de s'attaquer à ce problème qui est au cœur de ce qui se passe au sein d'un laminoir. Alors vous allez me dire, on n'a pas attendu que je sois là pour laminer des tôles d'acier, donc ça c'est tout à fait vrai. Ceci dit, pour essayer de développer des nouvelles nuances, c'est intéressant d'avoir une meilleure maîtrise de ces transformations pour pouvoir dire, il faut que je chauffe plus chaud ou moins chaud, plus vite, que je rajoute un pouillème de perlimpinpinade de quelque chose. Enfin, donc ça, c'est deux exemples qui sont liés à l'alloy design.
Je vous propose de marquer une pause, si vous le voulez bien. Yves Bréchet, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission qui vous est consacrée. À tout de suite.
Quelle est l'histoire du mouvement écolo en France ? Réponse avec Roger Kanz, les années 30, Tchernobyl, le Rainbow Warrior, Mururoa, retrouvez ce qui devient aujourd'hui l'une des plus importantes préoccupations des Français et téléchargez cette émission sur canalacademy.com.
Suite de notre émission en habit vert en compagnie de Yves Bréchet avec qui nous évoquons vos travaux. Hein. Nous évoquons vos travaux, Yves Bréchet. Nous étions sur le Halo Design, vous avez pu nous expliquer et nous donner des exemples sur cette technique. Troisième point sur lequel vous vous intéressez, c'est la sélection des matériaux. On en a déjà parlé plus ou moins au cours de cette émission, vous avez cité Michael Ashby. Pourquoi y a-t-il nécessité de sélectionner les matériaux ?
Parce qu'on a le choix. C'est une des caractéristiques de l'ingénieur moderne dans le domaine des matériaux, c'est qu'il a en gros entre 50 000 et 100 000 matériaux disponibles et que du coup on est en face de ce qu'on appelle l'hyperchoix des matériaux. D'autre part, on est dans une situation où de plus en plus on est obligé d'économiser la matière, c'est-à-dire de dimensionner au mieux, d'essayer de trouver le meilleur matériau pour ou les meilleurs matériaux pour des cahiers des charges qui sont de plus en plus exigeants. C'est-à-dire on va demander à un matériau d'être à la fois un matériau de structure, transmettre des forces, souvent de transmettre aussi de l'information, de stocker de l'énergie, enfin, etc. Donc ça, ça conduit à essayer de faire un choix optimal de matériaux. Alors, ça, c'est la reconstruction de l'histoire que je suis en train de vous donner. En fait, la raison profonde pour laquelle je me suis intéressé au choix des matériaux, c'était d'abord une raison pédagogique. C'est-à-dire, je me demandais ce que je pourrais enseigner à des élèves ingénieurs qui n'avaient pas particulièrement envie de faire de la recherche sur les matériaux, mais qui avaient envie de faire un travail d'ingénieur. Et je m'étais dit à l'époque, ce que je peux leur enseigner de plus naturel, c'est comment choisir les meilleurs matériaux pour les applications qu'ils regardent. Et c'est à ce moment-là aussi que j'en ai parlé avec Michael Ashby, qui m'a dit, mais écoute, on travaille juste là-dessus en ce moment, donc travaillons ensemble. C'est comme ça que je me suis trouvé embarqué dans à la fois une activité pédagogique de sélection de matériaux et une activité qui est aussi une activité de recherche. Et ce qui m'a amené à regarder des problèmes extrêmement bizarres du style quels sont les meilleures méthodes algorithmiques pour essayer d'optimiser un choix suivant que j'ai à considérer des individus qui sont séparés ou des individus qui sont en continu, en composite. Il y a une fraction continue de renfort. C'est pas la même chose de choisir entre des gammes de composites et de choisir entre des alliages qui ont un traitement thermique donné, une composition donnée. Donc ça m'a amené à, d'une certaine manière à réexplorer le monde des matériaux et aussi à me construire ce que j'avais pas avant, qui était une vraie culture comparatiste dans les autres classes de matériaux. J'étais essentiellement un métallurgiste, je reste un métallurgiste, mais cette question de la sélection des matériaux conduit à vraiment à se poser la question de la comparaison entre les matériaux. Et puis ça m'a amené aussi à regarder où étaient les manques, c'est-à-dire quelles sont les propriétés qui sont intrinsèquement contradictoires, ou où sont les trous dans l'espace des matériaux. Et ça, d'une certaine manière, ça s'est rapproché de la question qu'on regardait tout à l'heure, la question du biomimétisme, la question des matériaux hybrides, la question des associations de matériaux. Ce qui fait que ce qui était d'abord parti comme une activité d'enseignement est devenu une activité de recherche et de recherche structurante, conduisant à se dire, bien, je vais essayer de voir comment ce que j'ai appris dans les différents types de matériaux, comment ce que j'apprends sur des matériaux naturels peut permettre de répondre à des questions de type choix de matériaux. Donc ça m'a amené à regarder des problèmes du style des matériaux hybrides, les mousses, les feutres, enfin tous ces matériaux un peu exotiques qui semblent un peu des excroissances de la science des matériaux du côté de la mécanique. C'est cette échelle intermédiaire. C'est ce que j'appelle les millimatériaux, les matériaux qui ont une architecture à l'échelle du millimètre.
Et qui sont donc super isolants, thermiques, comme vous avez
dit. Qui peuvent être super isolants thermiques, qui peuvent être isolants acoustiques, qui peuvent être des tas de choses.
Et notamment isolant acoustique dans les avions, comme j'ai pu le dire dans cette introduction, où justement on cherche à isoler au mieux et éviter les vibrations et les bruits
tout
dans un avion.
Et absorber les chocs d'oiseaux et...
Moins rigolo.
Alors, on demande plein de choses à ces matériaux.
Autre corde à votre arc, je le disais dans cette introduction, vous êtes conseiller scientifique pour plusieurs entreprises. Donc là encore, vous avez un pied dans le concret, hein, même si vous ne l'avez pas encore compris. Là, je pense qu'on commence à bien le comprendre. Vous travaillez notamment comme conseiller scientifique chez EDF, à l'ONERA, le CEA, Arcelor. À chaque fois, même si ça concerne la métallurgie, ce sont des domaines bien différents quand même, non ?
Oui, c'est des domaines différents et ce n'est pas forcément les mêmes choses qu'on me demande. C'est un peu au gré des circonstances. Donc, dire par exemple, à EDF, je vais regarder beaucoup de problèmes qui sont liés au vieillissement des matériaux. À l'ONERA, je vais regarder des problèmes de matériaux haut de gamme pour le développement des moteurs ou pour le développement des cellules aéronautiques. À ArcelorMittal, ça va être plus de réfléchir avec eux sur les questions de recherche fondamentale qui sont nécessaires pour développer de nouveaux aciers. Au CEA, c'est plus des questions d'expertise de leur domaine scientifique qu'ils me demandent. Enfin bon, c'est très variable. Mais à chaque fois, ce qui me plaît dans ces circonstances-là, c'est qu'à chaque fois, on part de questions concrètes, qui sont des questions sur lesquelles je forme mes ingénieurs, les ingénieurs que je forme en fait, et on se pose la question de la science qu'il faut faire dessus.
Parmi les papiers que vous avez publiés, donc sur les 500, donc il y en a quelques-uns quand même, notamment donc vous êtes intéressé à la question du nucléaire, notamment donc la durabilité, le vieillissement des composants dans les centrales. C'est aussi, comme nous sommes dans l'actualité, malheureusement, du 11 mars à Fukushima, est-ce que ce sont justement des questions qui sont encore d'autant plus prégnantes aujourd'hui, ces notions de durabilité, de vieillissement des matériaux dans les centrales ?
Elles ne sont pas plus prégnantes, elles le sont autant. Et je crois qu'il faut se sortir du mouvement de panique dans la circonstance. Quand vous regardez une centrale nucléaire, vous avez des composants qui sont non remplaçables, vous avez des composants qui sont remplaçables et vous avez des composants qui sont consommables. Les composants qui sont consommables, on les change avec une certaine régularité, c'est le combustible. Les composants qui sont remplaçables, ça va être des tuyauteries, des échangeurs de chaleur. On les change en les vérifiant régulièrement, on voit s'il y a des fissures, on les enlève. Puis les composants qui sont non remplaçables, c'est la cuve essentiellement. Maintenant, ça veut dire que se poser la question de l'âge d'une centrale n'a essentiellement aucun sens. Donc on peut se dire très rapidement, il faut fermer tout de suite les plus vieilles, c'est juste absurde. Parce que les plus vieilles, pour ce qui est des composants remplaçables et des composants consommables, ont été très très largement remplacés au fur et à mesure de leur existence. Et si vous regardez tous les accidents nucléaires qu'il y a eu, y compris le dernier, ce ne sont pas des accidents qui sont liés aux composants irremplaçables, ils sont liés au combustible, la plupart. Donc ça veut dire qu'encore une fois, là, il faut réfléchir avant de faire.
Et dans votre papier, vous dites qu'il est important de s'intéresser aux échelles de transition
Aux échelles intermédiaires, tout à fait. Il faut se poser la question des échelles intermédiaires en termes d'espace et la question des échelles intermédiaires en termes de temps. En termes de temps, parce que c'est ce qui va nous donner la durabilité des composants, et en termes d'espace, parce que c'est là que vont se trouver les mécanismes qui conduisent, par exemple, à des fragilisations. Donc, en fait, c'est un peu le cœur de toute la science des matériaux, et pas simplement dans le nucléaire. C'est particulièrement évident dans le nucléaire, parce que les ennuis arrivent au niveau atomique, enfin, les mécanismes arrivent au niveau atomique, et les ennuis arrivent au niveau macroscopique. Mais toute la science des matériaux est une science du changement d'échelle. Changement d'échelle de temps et changement d'échelle d'espace.
Lors de cet entretien préparatoire pour réaliser cette émission, vous me disiez qu'en métallurgie, tout reste à faire, malgré cette image qui est un peu poussiéreuse de la métallurgie, elle ne l'est pas du tout. Vous dites que, par exemple, il est nécessaire ou intéressant, en tout cas, de travailler avec les biologistes sur les interactions matière molle, matière inerte.
Oui, tout à fait. Mais en particulier, l'interaction entre le vivant et les métaux est une question, y compris d'application pratique.
Sur laquelle on ne travaille pas actuellement, ou très peu.
Si on commence un peu à y travailler, on y travaille dans l'agroalimentaire, vous y travaillez quand vous voulez fabriquer de la bière. La question des levures de bière sur les cuves de fabrication est importante. Dans le nucléaire, la question du relargage des micro-organismes dans les circuits de refroidissement est importante. Mais la question des mécanismes qui font que tel et tel organisme vivant sent ou ne sent pas la microstructure du métal sous-jacent est une question qui est essentiellement ouverte.
Vous dites également travailler avec les géologues sur le comportement des roches. Mais là, j'imagine que le comportement des roches est déjà bien connu.
Oui, il y a beaucoup de choses. On peut se dire aussi de comprendre, par exemple, l'état de recristallisation d'une roche est quelque chose qui permet de savoir un peu quelle histoire elle a vécue. C'est-à-dire, le problème de la géologie, c'est qu'on n'a qu'une seule terre. Donc, on est bien obligé de vivre avec et on ne peut pas nécessairement refaire toutes les expériences. Alors, on peut faire des expériences en laboratoire qui permettent de tester des idées, mais on peut aussi se dire, est-ce que je ne peux pas utiliser la microstructure comme un diagnostic de ce qui est arrivé aux roches? Mais ça, c'est un atavisme naturel des métallurgistes. Il y a beaucoup de métallurgistes qui, de près ou de loin, se sont posés des questions de géologie, ou voire sont devenus géologues.
Et travaillent aussi sur les matériaux en microélectronique, par exemple?
Oui, tout à fait. En fait, il y a beaucoup de métaux à plein d'endroits. En microélectronique, il y a le problème des interconnexions, qui sont des interconnexions métalliques, qui permettent de conduire les électrons où il faut. Mais ceci dit, il y a aussi un problème qui est beaucoup plus profond que ça, qui est que les problèmes de microélectronique vont être des problèmes de diffusion, des problèmes de transformation de phase, des problèmes de mécanique, des problèmes de déformation, voire des problèmes de rupture. Et qu'en fait, la boîte à outils intellectuelle qu'il faut pour comprendre ça, c'est la boîte à outils intellectuelle de la métallurgie. Donc la métallurgie, c'est non seulement la grand-mère de toutes les sciences des matériaux, mais en plus, elle est encore très active. C'est-à-dire les concepts qui sont issus de cette discipline-là sont des concepts qui sont encore opératoires. Et parfois un peu oublié, ce qui fait qu'on est obligé de les redécouvrir. Donc, d'où l'intérêt pour des métallurgistes de s'intéresser à des disciplines autres que la métallurgie et l'intérêt pour des gens qui travaillent sur des matériaux autres que les métaux d'apprendre ce que la métallurgie a à leur dire.
Cette métallurgie est d'autant plus importante qu'effectivement, on la retrouve partout, finalement, dans notre environnement quotidien. Pour autant, au niveau des études, il semble que les cours dispensés concernant la métallurgie, eux, diminuent.
Alors,
dans les grandes écoles.
Ça, c'est effectivement vrai, mais je veux dire, c'est la partie émergée de l'iceberg, si j'ose dire. Ce qui me semble beaucoup plus grave, c'est que la formation des ingénieurs elle-même diminue. Ce qui me semble, bon, que la métallurgie souffre, ça c'est clair, mais on s'en rend compte avec la métallurgie parce qu'elle est partout, donc là on commence à s'en rendre compte. Mais ce qui me semble plus inquiétant encore, c'est de voir des écoles d'ingénieurs d'où on va sortir des ingénieurs qui sont tous sauf des ingénieurs. Et ça me semble beaucoup plus inquiétant. Donc il faut impérativement dire haut et clair que la première chose qu'on demande à un ingénieur, et c'est un ingénieur au sens général du terme, c'est pas forcément dans les grandes écoles, c'est d'avoir une compétence scientifique et technique solide. Et que c'est ça qui lui permettra d'être innovant et de créer des choses, beaucoup plus que de lui donner des cours d'innovation.
Donc vous voulez dire par exemple qu'actuellement, les ingénieurs qui sortent des écoles ne sont pas ingénieurs au sens où vous l'entendez?
Ils ne le sont pas assez. Je trouve qu'on donne beaucoup trop de cours de pipeau et de coloriage dans un certain nombre d'écoles.
D'accord, le message est passé. Sauf à l'INP de Grenoble.
Je fais tout ce que je peux pour éviter qu'on le fasse. Mais ceci dit, c'est vrai que de ce côté-là, j'ai des collègues assez réceptifs et qui se sont assez facilement laissés convaincre. Donc, de former des vrais ingénieurs, des ingénieurs qui savent faire des choses, quoi.
Parmi vos lectures, je crois savoir que vous appréciez beaucoup Julien Green. J'ai retrouvé une citation de Julien Green qui dit « Qu'est-ce que l'invention sinon l'acte par lequel on trouve ? Êtes-vous un inventeur, Yves Bréchet ? Est-ce que vous vous estimez inventeur ? »
C'est une très belle citation, je ne la connaissais pas.
C'est dans l'apprenti psychiatre.
Si on définit l'invention comme ça, oui. Je ne suis pas sûr que ce soit la définition communément acceptée, mais si c'est la définition qu'on peut lui donner, j'y adhère pleinement.
Je dis ça parce que, donc, bien sûr, vous vous intéressez à la métallurgie, puisque c'est votre formation, mais vous vous êtes aussi intéressé, alors, chose peut-être plus amusante, on va dire, hein, c'est notamment la cinétique des graffitis. Je crois que vous avez proposé cette étude à la RATP pour justement essayer de modéliser, voir à quel rythme les graffitis revenaient sur les murs, ou en tout cas se développaient.
J'avais effectivement cette idée-là, je dois dire qu'elle a modérément convaincu la RATP, pour tout dire, je n'ai jamais reçu de réponse à ma lettre. Mais l'idée était assez simple, c'était de dire, après tout, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de regarder la vitesse avec laquelle un mur se couvre de graffitis, en se disant qu'il y a un temps d'incubation, une vitesse de croissance, et puis un temps de saturation, et de se dire, est-ce qu'il n'y a pas des typologies différentes de couverture de mur suivant les endroits où on se trouve. Mais pour faire le travail sérieusement, il aurait fallu le faire avec un sociologue. Mais ceci dit, je ne désespère pas d'un jour trouver un sociologue qui aurait envie de regarder ça, ou un ethnologue.
Alors, le message est lancé. Une autre étude sur laquelle, pour le coup, ça a abouti à un article dans Nature, c'est un travail sur les applaudissements. Donc, dans une salle, effectivement, quand arrivent les applaudissements, au début, il y a une cacophonie d'applaudissements, et à un moment donné, et par vagues successives, les applaudissements sont en rythme. Et redeviennent après cacophoniques. Et donc ça, vous avez pu l'expliquer.
Oui, on l'a décrit, je dirais plus qu'on l'a expliqué, mais bon, l'histoire était assez amusante. C'était en m'ennuyant à 100 sous de l'heure dans une pièce de théâtre avec un collègue hongrois, on a commencé à parler de la manière dont les applaudissements se passaient. Et puis, on s'est posé cette question-là, pourquoi les applaudissements pouvaient être coordonnés ou non coordonnés. Et après, on a lancé des études de simulation numérique, des études d'enregistrement dans des écoles maternelles en Hongrie, de regarder pourquoi, quand on voulait faire plus de bruit, eh bien, on était obligé d'augmenter la fréquence des applaudissements. Donc, du coup, la dispersion des fréquences était plus grande et donc le couplage restant le même, eh bien, on se retrouvait avec un applaudissement chaotique. Donc, mais bon, c'était plus une boutade et puis une envie de regarder un problème comme ça. Et puis, ça, de fil en aiguille, on s'est pris au jeu, on a fini par l'écrire.
Et qui a abouti à une publication dans Nature, quand
oui,
même.
Oui, je ne suis pas sûr que ce soit très glorieux pour Nature d'avoir accepté ça, mais ceci dit, c'était amusant.
On arrive au terme de notre émission. J'aimerais terminer par une citation de vous, vous allez pouvoir la commenter. Un article que vous avez écrit, intitulé « Controverse sur la technique et société », thème technique et société, où vous parlez du devoir de mauvaise humeur. Alors, je vais vous citer. « Nous vivons une crise de l'expertise. Elle se traduit par la confusion constante entre l'idée et l'opinion, par la paresseuse pêche du web en guise de recherche d'informations, par le droit revendiqué aussi d'avoir un avis sur tout sans travailler sur rien. »
Oui, j'étais particulièrement de mauvaise humeur parce que je trouve qu'il y a une forme de rejet de la science actuelle que je trouve extrêmement inquiétant. On considère que tout ce qu'elle a pu apporter est d'une certaine manière acquis. Et dès l'instant où c'est acquis, on ne voit plus que les dangers que ça pourrait présenter. Et il y a une espèce de méfiance intrinsèque. Et je pense que, autant je ne suis pas du tout parmi les gens qui pensent que les scientifiques devraient décider, je ne pense pas que les scientifiques aient à décider pour une société, ils ont à l'informer. Mais je pense qu'il est du devoir des décideurs dans une société de s'informer correctement. Et c'était un peu en ce sens que j'étais un peu agressif vis-à-vis de l'opinion qui remplace l'idée. Il n'y a rien à faire. Si on veut avoir une idée sur un problème, ben, il faut travailler sur ce problème-là. Il faut aller voir les gens qui travaillent dessus. Il faut qu'ils soient disposés à essayer de se rendre compréhensibles. Il y a tout un tas de choses à faire, mais on ne peut pas court-circuiter tout ça en essayant de faire un micro-trottoir sur la lemnisquette de Bernoulli, quoi.
Mais dans cet article, vous précisez que même lorsque les scientifiques ont ce souci d'avoir un vocabulaire peut-être accessible au plus grand public, le message ne passe pas forcément si les journalistes n'ont pas décidé de le diffuser.
Oui, je comme pense qu'il y a un problème d'adaptation d'impédance, si j'ose dire. Les scientifiques peuvent parler au public. Quel effort qu'il fasse pour parler au public, ça sera détruit en 15 secondes si au journal télévisé, il y a une ânerie qui est prononcée. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord éduquer, ou au moins, pas forcément éduquer, mais je dirais parler avec les gens qui font l'information. Et ça, je crois beaucoup à cette notion-là. Il faut que les scientifiques n'essayent pas simplement de se donner bonne conscience en allant parler au grand public en leur disant « Regardez, la science, c'est bien », chose qu'on doit faire et qui est effectivement un devoir, mais aussi se dire que pour que ce message-là soit relayé de manière efficace, il faut que ce message-là, on le porte à ceux qui font l'information, qui sont les journalistes, à ceux qui utilisent l'information, qui sont les décideurs politiques. Et là, je crois qu'il y a un vrai devoir des scientifiques, s'ils croient vraiment à la valeur de la science, de faire passer cette information aux endroits où elle peut être opérationnelle.
Eh bien, je vous remercie, Yves Bréchet, de nous avoir accordé cet entretien. Je rappelle aussi pour nos auditeurs qu'il y a donc un rapport de l'Académie des sciences qui est sorti dernièrement, en novembre 2010, qui s'intitule « La métallurgie, sciences et ingénierie ». On y retrouve notamment vos travaux, hein. Vous avez écrit plusieurs articles dans ce rapport. Un rapport sous la direction de André Pinault et Yves Quéret. Yves Quéret, donc, que vous avez lu notamment à l'IX, à l'École Polytechnique. Merci d'être venu jusqu'à nous et puis je l'espère à bientôt pour de prochaines émissions. Merci à vous.